Hélène Sandranier, présidente du conseil départemental de l'Aude, on va évoquer alors une expérience qui est menée, paraît-il, par l'État aujourd'hui et qui concerne entre autres le département voisin des Pyrénées-Orientales. Alors, renationalisation du RSA, je ne sais pas si le terme est exact, en tout cas, un retour à l'État pour la prise en charge du RSA.
Recentralisation.
Alors, pour vous, c'est une recentralisation, oui.
C'est ça.
Oui. Alors, vous entendez par là aussi que ça a peut-être des avantages, mais c'est une perte de pouvoir.
Je le dirais, de pouvoir d'action.
Oui, de pouvoir, mais c'est du pouvoir aussi.
Oui, c'est du pouvoir, mais c'est du pouvoir d'action. Vous savez que j'y suis très attachée. Oui, il y a effectivement des expériences qui sont menées au niveau national sur la recentralisation de l'allocation RSA, et qui est une de nos compétences.
Mais alors pourquoi les PO, par exemple, pourquoi ce département qui est socialiste également, d'ailleurs, Hermeline Malherbe, la présidente, est socialiste également, je crois.
Oui, bien sûr.
Je ne sais pas si ça a un lien ou c'est une volonté d'avoir candidaté à une expérience.
Oui, c'est plutôt une volonté d'avoir candidaté parce que, si vous voulez, c'est plutôt lié, ce choix, aux éléments départementaux autour des possibilités économiques, des possibilités d'emploi, plus ou moins, si vous me permettez cette expression, de la richesse du département aussi à faire face à ce paiement des allocations qui lient à ça. Alors c'est vrai qu'il y a des expériences, mais en ce qui concerne le conseil départemental de l'Aude, je n'ai pas fait le choix.
Vous n'y êtes pas favorable.
Peut-être, j'utiliserai pas le mot de favorable. Je dirais plutôt que aujourd'hui, il y en a pas des tonnes d'expérience.
Non, je crois qu'il y en a deux ou trois.
Voilà,
en France,
ouais, hein. Voilà, il y en a pas des tonnes et ça veut dire que c'est une quête, c'est un travail qui est en cours. Et ne connaissant pas les effets de ce travail, je suis prudente. Vous voyez,
oui,
c'est pas favorable, c'est prudente.
Oui, hein. Mais ça vous semble un peu une aventure.
Eh ben, ça me semble une aventure et je ne voudrais pas que nous soyons les victimes de cette aventure. Je m'explique. La politique envers les personnes qui sont dans des dispositifs d'insertion ne se limite pas au paiement de l'allocation RSA. C'est une politique qui s'accompagne de ce qu'on appelle les politiques ou la politique d'insertion. Et effectivement, il y a des financements, RSA, insertion, et les travaux qui sont menés aujourd'hui ne sont pas assez clairs sur finalement qu'est-ce qui serait la capacité des départements à continuer à agir sur les politiques d'insertion. Voyez-vous, or pour moi, l'essentiel dans cette affaire, c'est la politique d'insertion. Nous avons au conseil.
Oui, la finalité, c'est
ben,
ça.
C'est ça, quoi. Donc, au département, nous avons une volonté, et ce budget-là aussi le traduit, très forte d'insertion. Nous avons pris des mesures pour l'année qui vient, sur notamment l'élargissement de notre dispositif RSA activité, par exemple, aux emplois du BTP. Hein, nous envisageons de l'élargir aux emplois de l'aide à domicile. Jusqu'à présent, ils étaient réservés à la restauration, à l'hôtellerie et aux travaux, enfin aux emplois agricoles. Là, il y a des possibilités pour nous de mener des politiques. Et donc, cette question de l'insertion et de son financement est centrale pour nous, parce qu'elle nous donne le pouvoir d'agir. Et dans la négociation qui se joue aujourd'hui, comme je vous le disais, ce n'est pas très clair sur jusqu'à quelle somme on va reprendre au département par rapport au RSA. Donc il ne faudrait pas qu'à la sortie, non seulement, nous transférions le RSA en tant qu'allocation, mais qu'en même temps on soit pénalisé sur notre volonté politique de mener des projets d'insertion.
Oui, puis une capacité dans la mesure où c'est de la proximité et qu'un département est mieux placé que l'État pour ce genre de choses.
Exactement, exactement. L'emploi, vous savez, j'en avais déjà parlé ici, mais ça y est, nous le mettons en œuvre. Je ne veux pas que ce soit trop compliqué pour les auditeurs, mais une des problématiques, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour l'insertion. Il y a beaucoup d'acteurs. Le constat, c'est que il y a parfois des actions qui sont en parallèle. Et que la nécessité de la coordination entre ces acteurs s'impose.
Elle ne peut être que départementale.
Et elle ne peut être que départementale, parce que il faut connaître un bassin d'emploi, un territoire, pour pouvoir avoir de la pertinence dans le choix des emplois qu'on peut proposer aux personnes qui sont en insertion. Ça part du local, ça. Ça peut pas être national. Donc nous devons garder la même mise sur ces politiques. Et nous devons surtout les améliorer en termes de coordination. Ce que nous faisons, là, pour le coup, avec l'État, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le SPI, le Service Public de l'Insertion et de l'Emploi. Vous voyez ? Donc, pour revenir à votre question initiale, restons prudents sur la recentralisation du RSA.
Voilà. Des explications utiles, parce que finalement, on se souvient que les départements, quand l'État leur avait refilé, si vous permettez l'expression, le RSA, ça a hurlé.
Oui,
ça,
mais
ça.
La raison pour laquelle on a hurlé, si vous me permettez, est toujours réelle. Parce qu'à un moment donné, on nous a transféré le RSA,
la charge
financière, sauf que depuis...
Les sous.
Le nombre d'allocataires a augmenté, mais que le transfert, bon, il a bougé un peu, mais pas du tout au prorata de la somme que représente le paiement du RSA. Oui. C'est ça qui nous fait crier, les départements. Parce que vous savez que quand on nous transfère une compétence, il faut nous transférer la compétence
et
le financement de la compétence, sinon c'est trop facile, quoi.
Ben, bien sûr, oui, voilà. En tout cas, des explications qui démontrent que c'est une expérience dont on verra ce qu'il en sort, mais qui n'est pas, enfin, c'est pas gagné d'avance, et on comprend que malgré les premiers cris d'orfraie poussés quand la chose s'est faite, vous préfériez encore conserver ce système à l'heure actuelle, oui, pour toutes les raisons que vous avez décrites, oui, Hélène Sanchez.
Vous êtes un ancien professeur d'anglais, monsieur. Hein? Alors wait and see.
Voilà, parfaitement bien dit. C'est du pragmatisme anglo-saxon. Alors, sur les réalités, justement, quotidiennes, on a parlé de la proximité, de l'insertion. Bon, vous participez à un certain nombre d'actions du quotidien. Par exemple, la rénovation énergétique qui aide d'une part les gens à améliorer leur logement, mais qui vont aussi dans le sens de la transition écologique et de l'éco-responsabilité.
Oui, tout à fait. Alors, je disais au début de mon propos que, effectivement, nous sommes engagés dans cette transition. En septembre, nous avons effectivement voté la charte de l'urgence climatique, parce que bon, on ne peut pas nier la réalité de cette urgence, et qu'il nous faut avoir des politiques qui permettent de réorienter effectivement et de contribuer globalement, on va le dire comme ça, à la diminution de la production de l'émission des gaz à effet de serre. Alors, au département de l'Aude, ça se traduit naturellement dans le budget, hein, très logiquement. Alors, ça se traduit très concrètement d'abord dans le département, dans nos bâtiments, puisque nous devons avoir être modèle. Hein, et donc, pour vous donner un exemple, nous avons au niveau des équipements départementaux des projets, des travaux de réhabilitation de nos propres bâtiments, de rénovation énergétique. Nous allons poser sur le parking du département des ombrières photovoltaïques. Donc tout ça pour quand même une hauteur de 1 million d'euros. Et nous avons de gros travaux, de gros projets dans nos collèges, hein, sur effectivement les bâtiments et la rénovation énergétique de nos collèges. Il n'y a pas que ça. Nous mettons de l'argent dans nos collèges, nous allons continuer sur les modes de chauffage, hein, les chaudières que nous utilisons, les chaudières à bois. Donc, il y a de vraies politiques autour de cela.
Et à propos des collèges, là, où en est-on ? Je pense que maintenant l'Aude est équipée, on est plus dans la maintenance et l'entretien que la construction de nouveaux collèges.
Pas tout
ou
à fait.
Ou non ?
Pas tout à fait. Nous sommes aujourd'hui sur la construction, je peux dire construction parce que la rénovation l'innovation est telle que du collège Alain à Carcassonne, hein, nous avons fini le collège des Fontanilles à Castelnaudary l'an dernier, nous l'avons inauguré, et là nous sommes sur le collège Alain à Carcassonne. C'est un très gros projet pour nous, hein, à hauteur de 21 millions. Hein, et pour vous donner un ordre d'idée quand même, c'est un projet qui dans notre budget investissement collège représente la moitié des investissements, hein. Donc ce sont de grosses sommes que nous consacrons pour l'éducation de nos enfants, mais c'est un des derniers gros chantiers, hein, du mandat, hein, il est en cours. Donc, mais au-delà de ça, nous avons au quotidien des travaux de rénovation énergétique dans nos collèges. Et puis, vous l'avez évoqué, nous engageons un autre projet que nous allons mettre en œuvre dès cette année autour de ce qu'on appelle l'éco-responsabilité. Vous savez qu'une de nos missions, c'est d'aider les collectivités à monter des projets. Quand une collectivité fait le choix de construire une nouvelle salle des fêtes, quand elle fait le choix d'un équipement public comme des écoles, quand elle fait le choix de rénover une traversée de ville, ou de village, etc. Nous contribuons à ces travaux par des subventions, hein, conséquentes, hein, puisque bon, on est autour de 12, 13 millions selon les années. Et donc, le choix que nous faisons cette année, c'est celui de mettre en œuvre, j'irai dans quelques temps en parler avec les différents maires, hein, leur expliquer parce que il faut voir ça comme un progrès et pas une démarche qui vaudrait... c'est de l'écologie positive, hein. Il s'agit pas de pénaliser ceux qui ne pourraient pas le faire, mais plutôt de valoriser ceux qui le feraient. Très concrètement, eh bien, ça veut dire que nous introduirons dans le choix de l'attribution de la subvention des critères qui peuvent aller de la qualité paysagère, du projet. Est-ce que c'est une réhabilitation en centre-bourg ou au contraire on va occuper de nouvelles terres? Est-ce que c'est une démarche participative? Est-ce qu'il y a une modularité une polyvalence de l'utilisation? Est-ce que c'est accessible au dépassement de vous? Est-ce que les matériaux utilisés, mais la loi nous aide bien là aussi, hein, quel type de matériaux, quel est le bilan carbone, en fait, vous voyez,
c'est ça que vous appelez l'éco-responsabilité.
C'est ça. C'est-à-dire que de façon très progressive aussi, hein, parce qu'on peut pas du jour au lendemain changer les pratiques, hein, on peut comprendre la difficulté que peuvent avoir des collectivités à monter ce type de projet. Donc progressivement, de façon très positive, nous introduirons des critères de ce type qui visent à nous engager dans des démarches beaucoup plus vertueuses dans la protection de l'environnement.
Hélène Sandrani, on marque une seconde pause.